Bonjour et bienvenue dans ce 50e épisode de la Minute Nintendo. Et oui, déjà 50 épisodes. Alors pour fêter ça, on va évoquer donc pendant cette Minute Nintendo qui risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, le futur de Nintendo. Donc on va parler du futur de la 3DS, la console portable de Nintendo, et notamment son futur face à la PlayStation Vita, donc qui vient d'arriver en France. On va évoquer également donc le futur de la Wii et plus spécifiquement de la Wii U, donc la prochaine console de salon de Nintendo, et comment elle va se comporter lors de son match avec les prochaines consoles Next Gen. Et enfin, donc on évoquera un petit peu les changements plus profonds qui ont lieu actuellement au sein de Nintendo, donc les changements de politique en matière de DLC, d'online, etc. Voilà donc un petit peu pour le programme de cette Minute Nintendo. Donc on commence tout de suite avec donc la 3DS et notamment le match entre la 3DS et la PlayStation Vita. Alors on reviendra vraiment dans un prochain épisode pour bien voir en détail quels sont les avantages et les inconvénients entre la 3DS et la PlayStation Vita, qui va gagner ce match au sommet entre les portables. Mais on va tout de suite faire un petit premier point sur le lancement, donc cette première année de la 3DS, et sur ses premiers jours de vente de la PlayStation Vita au Japon et maintenant dans le reste du monde. Alors tout d'abord, si on remet un petit peu les choses dans leur perspective, on a assisté depuis principalement Noël à une explosion des ventes de la 3DS. On a des ventes qui ont... C'est tout simplement la console qui s'est le mieux vendue lors de sa première année, donc un succès assez retentissant pour la 3DS, qui s'est donc mieux vendue que la DS lors de sa première année. Et à côté de ça, on a la PlayStation Vita qui, il faut bien le reconnaître, du moins au Japon, a fait un flop au niveau de son lancement, au niveau des ventes, que ce soit au niveau des ventes de la console et des ventes de jeux. Donc on est encore en attente des premiers chiffres de vente de la console en Europe, mais il semblerait qu'il soit quand même meilleur qu'au Japon. Donc on peut espérer que la PlayStation Vita n'était tout simplement pas une console dont les jeux étaient pensés pour le marché japonais et qu'elle marchera mieux en Europe et aux États-Unis. Alors donc si on essaie de faire un petit tableau des avantages et des inconvénients de la PlayStation Vita et de la 3DS rapidement. Pour ce qui est de la PlayStation Vita, ses avantages sont quand même assez immédiats. Rien qu'en termes de graphisme et de puissance, on voit tout de suite que la PlayStation Vita en a sous le capot et qu'elle a une puissance qui la rapproche plus d'une PS3, alors que la 3DS a une puissance qui serait plutôt comparable à la puissance d'un GameCube par exemple. Donc au niveau de l'écran, encore une fois, l'écran est de bien meilleure qualité sur la Vita, avec un écran OLED vraiment de très bonne qualité, avec une très bonne résolution, des couleurs vraiment, vraiment éclatantes et un contraste vraiment très impressionnant. Et tout ce qui est fonctionnalité online et le multimédia sur la console est quand même plus élaboré que sur 3DS. Donc voilà rapidement pour la PlayStation Vita. Maintenant, la 3DS a quand même des atouts. Elle n'est pas complètement dépassée par la Vita. Tout d'abord, au niveau de son prix. Rappelons quand même que la Vita vaut dans le modèle de base 250€ et dans son modèle 3G environ 300€. À cela, il faut rajouter le prix d'une carte mémoire, une carte mémoire propriétaire Sony qui coûtera environ 50€ si vous voulez une carte mémoire digne de ce nom. Donc vous pourrez trouver sur internet quelques sites où vous trouverez un petit peu la PlayStation Vita moins chère, donc pour environ, peut-être que vous la trouverez à 220€ au lieu de 250€, mais ça reste quand même plus cher que les 170€ de la 3DS. Sans compter la carte mémoire bien sûr, puisque la carte mémoire est offerte avec la 3DS alors qu'elle est payante et quasiment obligatoire avec la PlayStation Vita. Au niveau des jeux du line-up, il faut bien reconnaître que le line-up de la Vita est quand même assez fourni, assez diversifié et d'assez bonne qualité, alors que les jeux du line-up de la 3DS n'étaient pas forcément très attractifs. Donc il y avait à peu près Super Street Fighter 4 qui valait le coup, et après Nintendox plus 4 éventuellement si vous aimez ce genre de jeu, mais il n'y avait rien de très excitant. Là, pour la Vita, il y a quand même Uncharted, Wipeout, etc. Donc des jeux quand même assez forts. Mais la 3DS, maintenant, elle a un an et donc elle a eu le temps de se fournir un catalogue de jeux un petit peu plus étoffé. Et il y a bien sûr, il y a eu les Killer App, donc les jeux vraiment incontournables de la 3DS qui sont sortis. Donc Mario 3D Land et Mario Kart 7 principalement, qui aujourd'hui font quand même, qui portent la console et boostent les ventes de la console. À côté de ça, pour ce qui est de la PlayStation Vita, bah, il n'y a pas encore les jeux vraiment marquants qui donnent vraiment envie d'avoir une Vita. À côté de ça, donc, les jeux développés par Nintendo sont quand même des jeux qui sont vraiment pensés pour, le jeu en nomade, donc sur une console portable, alors que sur PlayStation Vita, Sony nous propose plutôt d'avoir des jeux qui sont équivalents à la PlayStation 3, et donc des jeux qui ne sont pas forcément intéressants à jouer sur une console portable. Donc on peut se poser la question, un Wipeout, un Uncharted, est-ce qu'il vaut tout simplement pas mieux les jouer sur une vraie console de salon plutôt que sur une console portable ? C'était déjà un reproche qu'on faisait à la PSP, et il semble que Sony, en tout cas, ait décidé de continuer dans cette voie de proposer des jeux au réalisme très proche d'une console de salon, et ne propose pas des expériences vraiment dédiées à une plateforme nomade qui peut être transportée et qu'on garde avec soi. À côté de ça, donc, au niveau de la rétrocompatibilité, c'est quand même donc un point très important, puisque souvent, quand on achète une nouvelle console, bah, si on n'achète pas des nouveaux jeux sur cette console avec, on aime au moins pouvoir jouer à ses anciens jeux. Et puis, pour les moins fortunés d'entre nous, hein, très souvent, quand on achète une nouvelle console, on en profite pour revendre son ancienne et ainsi baisser un petit peu le prix de cette nouvelle console. Et bah là, c'est quand même un petit peu dommage pour la PlayStation Vita, puisqu'il n'y a pas de rétrocompatibilité, il n'y a pas de port UMD qui permettrait de jouer à ces jeux PlayStation. Alors que pour la 3DS, évidemment, vous allez pouvoir jouer à l'ensemble de vos jeux DS. Donc rappelons tout de même qu'au Japon, il y a un programme pour pouvoir retélécharger les jeux PlayStation que vous possédiez, et pouvoir y jouer donc, sur votre Vita, mais ceci donc, ne semble être valable pour l'instant qu'au Japon, et en plus, quand vous les téléchargez, il faut les repayer. Donc à un prix certes réduit, mais il faut quand même les repayer, ce qui est quand même un petit peu rageant quand on a déjà acheté ces jeux donc, sur PSP. Donc voilà, la 3DS a quand même cet avantage vraiment énorme, que vous allez pouvoir y jouer à tous vos jeux DS, et on sait quand même qu'il y a quand même une énorme quantité de jeux DS de très bonne qualité. Or maintenant, donc voilà, c'était un petit peu le point sur les forces et les faiblesses de chaque console maintenant, donc à l'instant T. Si on regarde un petit peu dans le futur et dans les prochaines années, on peut se demander si la 3DS va tenir le coup face à la Vita une fois que les gros jeux vont arriver, donc les Gran Turismo, etc. Eh bien, pour moi, en tout cas, l'avenir de la 3DS semble tout de même assuré, ne serait-ce que par les jeux Nintendo, puisqu'on sait que forcément, à un moment ou à un autre, le prochain Animal Crossing va sortir et que ça sera forcément un gros carton. On sait qu'un Pokémon va sortir, donc on a appris donc il y a quelques jours la sortie donc de Pokémon Noir 2 et Pokémon Blanc 2 qui sortiront sur DS, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Bon, il sera toujours possible d'y jouer sur la 3DS, mais bon, ces jeux n'exploiteront pas les qualités, les technicités propres de la 3DS, donc tout ce qui est Street Pass, réalité augmentée, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour, un Pokémon spécifiquement développé pour la 3DS arrivera. Peut-être un Pokémon de la 6e génération, la 6G. Et ce jour-là, évidemment, bah, ça va encore une fois booster les ventes de la 3DS. C'est clairement ce qui va arriver. Or pour ce qui est de la Vita, eh bien, on sait qu'il y a quand même des grosses licences de chez Sony, hein, donc tout ce qui est Killzone, Gran Turismo, voilà, donc tout ce qui est les Metal Gear, c'est des jeux très forts de chez Sony, mais c'est des jeux forts qui sont principalement joués sur les consoles de salon. Sony n'a pas encore de grosses licences sur sa console portable, donc sur PSP. Donc il n'y a pas vraiment de gros jeux qui nous poussent à être vraiment très optimistes quant à l'avenir de la Vita et qui la rendraient vraiment compétitive face à la 3DS. De plus, y a quand même le problème du prix. Hein. La Vita est quand même beaucoup plus chère à l'heure actuelle que la 3DS. Et donc il va vraiment falloir que Sony se débrouille pour baisser le prix de la Vita, puisqu'on a vu que la PSP quand même a commencé vraiment à se vendre une fois que son prix a baissé. Donc la question c'est, est-ce que Sony a les moyens de baisser le prix de la Vita ? On sait que Nintendo donc, a commencé à vendre assez cher sa 3DS et qu'il n'a pas eu d'autre choix que de baisser le prix de la 3DS pour pouvoir booster un petit peu les ventes. Alors là, on sait que Nintendo avait peut-être un petit peu surestimé le prix de la 3DS et qu'il avait donc les moyens de baisser le prix de la 3DS sans pour autant perdre trop d'argent lorsqu'il vend une 3DS. Pour ce qui est de la Vita, ben, c'est quand même une console d'assez haute technologie et on n'est pas vraiment sûr que Sony ait les moyens de baisser le prix de cette console sans vraiment se ruiner complètement à chaque fois que vous vendez, que vous achetez une Vita. Donc voilà, on va vraiment falloir attendre les prochains mois ou les prochaines années pour voir si Sony se débrouille pour baisser les coûts de fabrication de la Vita et donc pouvoir baisser le prix de vente au consommateur final. Voilà, donc après il faudra attendre les éventuels gros jeux comme les God of War, les Gran Turismo, etc. pour vraiment voir si la Vita nous propose un petit peu comme la PSP uniquement des jeux qui sont des copies des jeux donc PS3 ou PS2, ou s'il y aura vraiment des jeux dédiés au support portable qui offriront des expériences différentes des jeux des consoles de salon. Donc si on doit parler du futur de la 3DS, ben, on ne peut pas couper à la question d'une 3DS Lite ou d'une 3DS XL, donc un nouveau modèle de la 3DS. Donc ça semble assez compliqué tout de même pour Nintendo de nous proposer une 3DS qui soit light dans le sens où elle soit plus petite et plus fine, puisque quand même la 3DS est relativement compacte, même si peut-être qu'elle pourrait gagner un petit peu au niveau de l'épaisseur. Alors le problème, si on réduisait l'épaisseur, il faudrait peut-être aussi réduire la batterie, et on sait que c'est quand même un gros ponard de la 3DS. Donc on penserait plutôt à l'arrivée un jour d'une 3DS XL avec des écrans plus grands, qui permettraient peut-être de mieux profiter des effets 3D, et donc d'avoir des meilleurs effets de profondeur ou des meilleurs effets sortants. Donc peut-être également une console qui, comme elle serait plus grande, permettrait d'embarquer une plus grosse batterie et qui aurait donc une meilleure autonomie. Ensuite, on a également vu la 3DS peut-être jouer avec un accessoire, donc le SlidePad, qui rajoute un deuxième stick analogique sur la partie droite de la console. Donc on peut également s'attendre à ce que le prochain modèle de 3DS propose de base ce deuxième stick, donc qui serait situé sur la droite de la console. Donc maintenant, quand est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau modèle ? Nintendo, pour l'instant, n'a pas caché que c'était pas du tout à l'ordre du jour de sortir un nouveau modèle. Donc évidemment, lorsqu'ils le sortiront, ils ne le révéleront qu'au dernier moment, ils ne vont pas le créer sur tous les toits. Mais on peut quand même penser que la 3DS actuellement se vend très très bien. Elle cartonne véritablement, elle bat tous les records de vente. Donc ça serait vraiment stupide pour Nintendo de sortir, de griller une nouvelle cartouche et de sortir un nouveau modèle maintenant. Donc on peut penser que la 3DS a quand même de beaux jours devant elle dans son modèle actuel et que Nintendo ne commencera peut-être à réfléchir à l'éventualité de sortir un nouveau modèle que lorsque les ventes de la 3DS actuelle commenceront à baisser. Ouais, donc maintenant on va aborder un petit peu plus spécifiquement les consoles de salon, et donc qui dit console du salon dit Wii U, hein, puisque la Wii quand même vit ses derniers mois. On sait que la Wii U sera présentée de façon définitive à l'E3 2012, donc en juin, et qu'elle devrait sortir d'ici la fin de l'année, donc sûrement à la rentrée 2012, ou peut-être pour les fêtes de fin d'année 2012. Donc la Wii U, ce sera donc évidemment la nouvelle console de salon sur laquelle Nintendo va tout miser, et on espère vraiment que cette nouvelle console va réussir à rebooster les ventes de consoles de salon, qui ont quand même bien chuté ces derniers mois, avec la Wii qui est quand même vraiment à bout de souffle. Donc je vous rappelle rapidement la grande originalité de cette console, c'est de proposer donc non plus une simple manette, non plus une simple Wiimote comme c'était le cas avec la Wii, mais ce qu'on appellera une mablette, c'est-à-dire une manette croisée avec une tablette, donc une sorte d'iPad, donc une grande tablette qui proposera donc un écran tactile, et tout en proposant des contrôles traditionnels, donc une croix directionnelle, des sticks, des gâchettes, des boutons, etc. Donc c'est une tablette qui se prend très facilement en main, qui est assez agréable et donc qui permet donc à la fois de jouer avec les boutons classiques, à la fois de faire la détection de mouvement, donc avec le gyroscope et l'accéléromètre qui sont intégrés dans cette tablette. Vous avez également une petite caméra qui vous permet de faire de la réalité augmentée ou de vous prendre en photo. Et vous avez l'écran tactile, donc pour ce qui est des interactions avec le stylet ou directement avec le doigt. Et donc tout ça communique de façon en streaming avec la Wii U, qui est donc la console, la vraie nouvelle console qui donc trônera donc en dessous de votre télé. Et tout est calculé sur la Wii U qui balance les images à la fois sur votre télé ainsi que sur votre mablette. Donc vous allez pouvoir avoir des graphismes de très bonne qualité sur votre mablette puisque ce seront des graphismes qui auront été pré-calculés sur la Wii U et qui seront envoyés simplement par Wi-Fi sur l'écran de votre tablette. Voilà, donc pour en savoir plus sur cette console, il va falloir attendre l'E3 pour avoir les derniers détails, les dernières spécifications, pour en savoir si le nom Wii U est bien le nom définitif de cette console. Pour l'instant, on n'en saura pas plus, mais on peut déjà se poser quelques petites questions, et notamment de savoir si la Wii U va faire le poids par rapport aux futures consoles Next Gen. Donc en effet, la Wii U, forcément, ce sera une console HD, ça on le sait. On sait qu'elle sera plus puissante que les consoles actuelles, donc que la PS3 et que la Xbox 360. Donc les rumeurs parlent d'une console qui serait entre deux fois plus puissante qu'une Xbox 360 et cinq fois plus puissante que donc une X360. Donc difficile pour l'instant de savoir vraiment ce que ça veut dire et où se situe la vérité, mais ce sera en tout cas une console qui n'aura pas à rougir face à la concurrence de maintenant. Mais la question c'est, est-ce que la console sera toujours digne d'intérêt une fois que les prochaines consoles de salon seront sorties, donc la Xbox 720 et la PS4 par exemple. Et donc là, bien évidemment, on n'en sait pas grand-chose puisqu'on ne sait pas encore les spécifications de la Xbox 360 et de la PS4, mais il y a fort à parier qu'il n'y aura pas un gap technologique aussi important que celui qui a pu exister entre la Wii et la PS3 par exemple. Puisqu'on savait que le principal défaut de la Wii, c'était quand même de ne pas être HD. Ce qui, quand on avait une télé, un écran plat HD, c'était quand même des graphismes assez baveux et donc assez grossiers. Et donc, ce gap de la HD faisait vraiment pas honneur à la Wii face à la PS3. Alors maintenant, on sait qu'il n'y aura pas de révolution graphique entre la PS3 et la PS4, puisque tout simplement, on arrive à des jeux qui sont vraiment véritablement photoréaliste avec une résolution qui de toute façon est la résolution de votre télé. Et donc pour la prochaine génération de consoles, on ne pourra pas aller au-delà de cette résolution. On ne pourra pas proposer des jeux qui seront encore plus fouillés. Alors les graphismes devraient être encore plus beaux, les consoles encore plus puissantes, mais il n'y aura vraisemblablement pas de gap aussi important que pour le passage de la PS2 à la PS3 par exemple. Donc ça, c'est plutôt un beau point pour la Wii U, puisqu'elle devrait donc ne pas être complètement dépassée dès que la PS4 et la Xbox 720 pointeront le bout de leur nez. Alors de plus, si on regarde un petit peu au niveau de la course à la puissance, Nintendo a quand même montré que ce n'était pas forcément ce que les joueurs recherchaient. On a vu que la Wii U, en dépit de sa puissance bien inférieure à celle d'une PS3 et d'une Xbox 360, c'est quand même beaucoup plus vendu, même si aujourd'hui ces ventes se sont un petit peu ralenties. Donc il y a fort à parier que à la fois Sony et Microsoft ne vont cette fois-ci pour la prochaine génération pas tout miser sur la puissance et ne vont pas risquer d'investir des millions pour développer une nouvelle console ultra puissante qui serait trop cher et qui donc ne se vendrait pas face à la Wii U. Donc en effet, on peut rappeler quand même que développer une console, ça coûte extrêmement cher, et que pour rentabiliser cette console, il faut en vendre des quantités vraiment impressionnantes, et il faut en vendre longtemps. Donc ça n'a pas forcément été facile pour Sony et pour Microsoft, qui ont eu beaucoup de mal à être rentables sur leur console, puisqu'elles ont nécessité des années de recherche et qu'elles ce sont vraiment des concentrés de technologies qui coûtent donc très cher à produire. Et pour proposer des consoles qui ne soient pas trop trop chères à la vente, ils sont obligés de perdre un petit peu d'argent à chaque fois qu'ils vendent une console, tout simplement pour installer le parc de machines installées et pouvoir ensuite se rattraper lorsque vous achetez des jeux. Donc là, il y a fort à parier que Microsoft et Sony essaieront de ne pas renouveler cette expérience un petit peu triste, alors que la Wii, au contraire, s'est vendue comme des petits pains, alors qu'elle était beaucoup moins puissante, beaucoup moins chère à produire, et que Nintendo faisait un petit bénéfice à chaque fois qu'il vous vendait une console. De plus, si on se pense au niveau des jeux, ben développer un jeu en HD pour Xbox 360 et PS3, ça coûte très cher, tout simplement parce que développer un jeu en HD, il faut développer toutes les textures en HD, etc. Développer des moteurs graphiques qui sont toujours plus puissants, ça coûte très cher, ça demande de plus en plus de temps, ça demande des équipes de plus en plus grandes, et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et les ventes ne sont pas toujours à la hauteur pour rentabiliser un jeu lorsqu'un éditeur choisit de sortir un jeu. Et donc ça, il y a fort à parier encore une fois que les éditeurs n'accepteront pas de devoir développer des jeux encore plus chers pour des consoles qui soient encore plus puissantes, donc la PS4 et la Xbox 720. Donc il y a fort à parier que les consoles n'évolueront pas beaucoup et que plutôt que la puissance, ça sera plutôt de nouvelles façons de jouer qui vont arriver. Donc la façon de jouer donc avec la mablette pour la Wii U, sûrement quelque chose d'équivalent au Kinect pour la Xbox 720. Et pour la PS4, on ne sait pas encore trop ce que Sony va pouvoir nous sortir comme idée. Voilà, donc tout ça pour dire que la Wii U ne devrait pas être complètement larguée par la prochaine génération. Et donc on peut penser qu'elle sera à peu près dans le même mouchoir de poche que les autres consoles niveau puissance, ce qui pourra permettre de faciliter les portages entre les différentes consoles. Parce que c'était quand même un gros point négatif de la Wii, de ne pas pouvoir profiter des jeux PS3 et Xbox 360, donc que ce soit les Call of Duty, les FIFA, etc., qui n'étaient pas à la hauteur sur la Wii. Donc on peut penser que cette fois-ci, les portages seront plus faciles, d'autant que pour passer de la PS3 à la Wii, c'est quand même assez compliqué, puisqu'il faut redévelopper le gameplay de A à Z pour s'adapter à la Wiimote. Là, pour ce qui concerne la Wii U, il s'agit avant tout d'une vraie manette. Hein. On aura une vraie manette avec des vrais boutons. Simplement, on aura un écran supplémentaire sur la console. Mais les contrôles ne devraient pas changer de façon fondamentale, puisqu'on a tous les caractéristiques d'une vraie manette, donc avec des vrais boutons. Et il suffira donc aux éditeurs et aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités donc pour tirer parti de l'écran tactile proposé sur la console, donc que ce soit afficher des informations supplémentaires, permettre un accès plus rapide aux options lorsque vous jouez, ou alors pouvoir commencer une partie sur la télé et puis la continuer sur votre mablette directement. Donc tout ça, ce sera quand même des fonctions qui seront beaucoup plus faciles à implémenter lorsque, par exemple, Activision choisira de porter son Call of Duty sur la Wii U. Mais ça sera quand même beaucoup plus facile que de devoir développer un nouveau Call of Duty avec des contrôles à la Wiimote complètement différents. Donc on peut penser que la Wii U, non seulement elle pourra bénéficier des jeux traditionnels de Nintendo, donc les Mario, Mario Kart, etc., les Pokémon et compagnie, mais elle pourra bénéficier très facilement de l'ensemble des jeux qu'on trouve actuellement sur PS3 et sur Xbox 360, donc les FPS, les jeux de sport, etc. Donc tout va donc se jouer sur la nouvelle façon de jouer. Donc est-ce que les joueurs vont adopter cette façon de jouer avec la mablette? Est-ce qu'ils vont plutôt préférer jouer sans contrôleur, donc avec le Kinect, faire avec donc les mouvements du corps? Ou est-ce qu'ils vont préférer peut-être une console plus traditionnelle avec la PS4 et éventuellement en relation avec la Vita? Bon, voilà, donc ça seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, la bataille risque de se faire surtout sur cette façon de jouer et non plus sur les graphismes et la surenchère technique. Alors, on va finir cet épisode, donc ce 50e épisode de la Minute Nintendo, en évoquant un petit peu les grandes tendances qui ont lieu actuellement au sein de la politique de Nintendo. Donc tout d'abord, quels sont les grands changements qui ont lieu ces dernières années? Eh bien, c'est le soutien des éditeurs tiers. Donc en effet, on se souvient que la Wii et la DS étaient relativement délaissées par les éditeurs tiers, hein, surtout à cause du piratage qui était extrêmement répandu sur ces consoles et du manque de puissance de la Wii et de la DS face à donc les consoles HD qui sont donc PS3, etc. et la PSP pour la DS. Et donc ceci a valu d'être à ces consoles d'être complètement abandonnées par les éditeurs tiers, et donc seuls les jeux Nintendo avaient du succès sur la Wii et sur la DS. Donc là, aujourd'hui, sur la 3DS, bah, ça commence à changer, hein, puisqu'on a des jeux éditeurs tiers qui arrivent, alors qui ne sont pas toujours de qualité, puisque bah, on a vu les jeux du lancement de la 3DS, bien que Nintendo leur avait laissé le champ libre, bah, les éditeurs tiers n'en ont pas vraiment profité pour tirer leur épingle du jeu. Alors, toujours est-il qu'aujourd'hui, Nintendo est plus à l'écoute des éditeurs tiers, puisque il a quand même, par exemple, le soutien de Capcom sur 3DS, qui a sorti donc Street Fighter 4, qui a sorti son Resident Evil Revelation, ce sont des titres assez forts. On sait qu'il a le soutien d'Electronic Arts sur sa Wii U, qui devrait donc proposer tous ses jeux de sport, donc les FIFA, les NBA Live, etc. Donc tous les jeux de sport d'Electronic Arts. Et on sait également, point très important, que Nintendo a enfin autorisé l'utilisation des DLC. Donc on sait que les DLC, ça représente une source d'argent assez importante pour les éditeurs tiers aujourd'hui. Et donc c'était très important pour obtenir le soutien des éditeurs tiers que Nintendo autorise l'usage des DLC sur ses consoles. De plus, ben, Nintendo a quand même revu pas mal de points de sa politique, puisque maintenant on peut trouver des démos de jeux sur la 3DS, ce qui encore une fois est quand même assez nouveau pour Nintendo. Et on sait que les démos, c'est quand même assez important, puisque quand on sort une démo, ben, généralement ça permet de mieux faire connaître son jeu, de donner envie aux joueurs d'acheter le jeu final. Pour ce qui concerne le online, encore un point qui est vraiment en pleine ébullition chez Nintendo en ce moment et en plein changement. Ben on a appris donc il y a quelques semaines que Nintendo allait sortir son Nintendo Network, donc une véritable plateforme de jeux en ligne qui serait donc comparable au XBLA et au PlayStation Network. Et donc ce network devrait comprendre l'arrivée des démos, qui sont malheureusement pour l'instant limités à 30 utilisations, mais bon, c'est un début. Les DLC, donc que ce soit du contenu supplémentaire payant ou gratuit pour les jeux. On sait que c'est quand même très important pour les éditeurs tiers. Et on peut quand même espérer que Nintendo va contrôler un petit peu tout ça pour que les éditeurs nous sortent véritablement du vrai contenu additionnel avec de nouveaux niveaux, de nouvelles expériences, etc. Et non pas simplement des DLC inutiles comme de nouveaux habits pour votre personnage ou de nouveaux gadgets inutiles. Vraiment des DLC qui dont l'unique but serait de gagner de l'argent. Donc on peut espérer que Nintendo vraiment essaie de protéger le joueur et garder une certaine qualité dans ses contenus additionnels qui seront disponibles donc gratuitement ou de façon payante pour ces jeux sur Wii U et sur 3DS. On sait également donc que le système de jeux online va se développer et a commencé déjà à se développer sur la 3DS avec l'arrivée de la liste d'amis, avec les communautés dans Mario Kart 7 qui permettent de jouer avec tout un tas de joueurs sans avoir besoin d'échanger ses codes amis, et le développement du jeu en ligne de façon anonyme, pouvoir rejoindre une partie en cours de route lorsque vous avez un ami qui est en train de jouer à une partie. Tout ça, c'est quand même des choses assez nouvelles chez Nintendo, et on voit que vraiment Nintendo a maintenant la volonté de rattraper son retard en matière de online et de proposer une expérience qui soit comparable à celle des consoles HD, donc PS3 ou Xbox 360. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le futur de Nintendo et de ses consoles. Donc, je vous remercie d'avoir écouté 7 minutes Nintendo, donc ce 50e épisode de la Minute Nintendo. Je vous remercie pour toutes vos écoutes au cours de ces 50 épisodes. Donc n'oubliez pas que vous pouvez écouter et ou réécouter les anciens épisodes sur kodami.fr ou directement sur iTunes. Donc vous tapez Minute Nintendo dans iTunes et vous allez trouver ça très facilement. Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur iTunes pour recevoir automatiquement les nouveaux épisodes. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur iTunes ou nous laisser quelques étoiles, ce qui nous permettra de monter un petit peu dans les classements. Voilà, donc je vous remercie à tous pour votre écoute et rendez-vous à très bientôt donc pour le 51e épisode de la Minute Nintendo.